CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, notre thème du jour est « Être discret, c'est important ». Le saviez-vous ?
Ben oui.
Ben oui. Je vous ai pris de court, hein.
Mais c'est indiscret.
Hein. On se fait discret.
Vous vous faites discret.
Je dirai rien.
Aujourd'hui, on va parler de la discrétion. Alors, il ne s'agit pas de chuchoter. Donc, non, nous ne ferons pas l'émission en chuchotant. Nous crierons. Mais nous allons parler de cette discrétion qui est nécessaire d'avoir avec les autres. Simplement, on aurait pu intituler cette émission « Mêle-toi de tes affaires ». Mais je trouvais que c'était oui. Un petit peu moins beau quand même.
Chacun s'occupe de ses oignons.
Voilà, par exemple, par exemple. Mais on va voir que c'est important de se mêler de nos affaires. Et Anne, dans la rubrique famille, tu vas nous parler aux parents aujourd'hui. Ouais.
Je vais parler aux parents d'enfants adultes parce que malheureusement, en matière de discrétion, il y a des progrès à faire dans beaucoup de familles. Et il y a parfois des parents qui passent littéralement à côté de la plaque et qui se fâchent avec leurs enfants adultes parce qu'ils ont été maladroits. Exactement. Donc je voudrais faire le point avec les parents dans cette rubrique pour dire il y a des gaffes à ne pas faire. Il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire quand on est parent d'enfants adultes. Alors, on va faire le point ensemble tout à l'heure.
Ben, on a hâte que tu nous parles de ça. C'est rare qu'on s'adresse aux
ici,
parents.
Ici, EMCI, les parents parlent aux parents.
Les parents parlent aux parents, effectivement. Ben, c'est mieux, on est mieux placés. Hein. Ouais. Vous avez tous les deux des filles qui sont adultes aujourd'hui, donc vous pouvez nous en parler.
Et avec qui on a de très bons rapports.
Ah, important, important. C'est testé et approuvé.
Testé et approuvé.
Et vérifiable.
Et vérifiable, c'est ça.
Ben, merveilleux. Ben, on va vérifier, nous, le contenu de cette émission avec toi, Jonathan, dans la pensée du jour.
Alors, je commencerai avec juste un mot. Chut. Il ne s'agit pas de pas faire de bruit, hein, de peur de ne pas réveiller les autres. Vous savez, un peu comme les enfants qui disent « Chut !» Le bébé dort, puis ils le disent plus fort. Comme ça, ça finit par réveiller le bébé. Non, non, mais il s'agit de définir c'est quoi ici la discrétion et l'indiscrétion. En fait, quand j'étais à l'école biblique, je me suis souvenu de ces cours en disant « Comment est-ce qu'on fait une bonne prédication ?» On commence par dire ce que ça n'est pas et après on dit ce que c'est. Alors, on va déjà commencer en quelques points. Ce que n'est pas la discrétion, donc c'est-à-dire l'indiscrétion. La discrétion, ce n'est pas la fanfaronnade. Je sais que dans le sud de la France, on va parler de la fanfaronnade. J'ai pas tout à fait l'accent. C'est ça. Donc la fanfaronnade, c'est faire du bruit. Et l'apôtre Paul va dire dans 2 Timothée, chapitre 3, il y a toute une liste qui est quand même assez forte, puisqu'on parle d'égoïsme, d'amis de l'argent, de blasphémateurs, de hautains, de rebelles à leurs parents, d'ingrats, d'irreligieux. Enfin, des mots qui font peur. Et au milieu, on a fanfaron. Et le fanfaron, en fait, c'est celui qui fait du bruit, c'est celui qui sonne de la trompette, c'est celui qui se vante, c'est celui qui se met en avant. La discrétion, ce n'est pas ça. La discrétion, ce n'est pas faire du bruit pour se faire remarquer. Jésus dit, quand vous priez, soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout et qui font du bruit pour qu'on les voit en train de prier. Mais quand tu pries, sois là dans le secret. Et on a trois fois dans Matthieu 6, quand tu pries, fais-le dans le secret et non pas devant tout le monde. Quand tu jeûnes, fais-le dans le secret et non pas devant tout le monde. Et quand tu donnes, quand tu fais l'aumône, fais-le dans le secret, d'une manière cachée et non pas devant tout le monde. Donc, on retrouve trois fois ça en Matthieu 6. Donc, ne pas faire du bruit pour se faire remarquer. Il ne s'agit pas de faire pour les autres, mais pour Dieu. La discrétion... Évidemment, là, c'est une lapalissade. La discrétion, ce n'est pas l'indiscrétion. Alors, c'est quoi l'indiscrétion? Je suis allé voir le dictionnaire Larousse et il nous dit que l'indiscrétion, eh bien, c'est un caractère déplacé, malséant. C'est lire par indiscrétion une lettre qui ne vous est pas adressée. Donc, il ne faut pas rentrer dans ce mode-là où c'est un défaut qui révèle les choses qui devaient rester secrètes. Alors, bref, mêle-toi de tes affaires. Et l'apôtre Paul dit exactement la même chose, et j'ai vérifié toutes les traductions françaises. Si on prend 1 Thessaloniciens 4:11, il dit « mêle-toi de tes affaires, occupe-toi de tes propres affaires ». Et donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on n'est pas là à vouloir voir ce qui se passe chez les autres, mais déjà à s'occuper de ses affaires. Alors, qu'est-ce que la discrétion? La discrétion, c'est le contraire de tout ça. La discrétion, c'est être capable de rester dans le secret, de garder ce cœur en disant, ben, je fais pas les choses pour être vu, pour sonner de la trompette, pour que tout le monde sache que je prie, que je jeûne ou que je fasse l'aumône. Mais la discrétion, donc, c'est cette attitude personnelle vis-à-vis de Dieu. Mais la discrétion, c'est aussi un caractère vis-à-vis des autres et être discret par rapport aux autres, être capable de garder eh bien, quelque chose de confidentiel lorsque ça doit être confidentiel et ne pas essayer, par une curiosité malsaine, essayer d'aller chercher à faire dévoiler chez l'autre ce qui doit rester discret. Alors, on va en discuter. Donc, soyons discrets aujourd'hui, c'est ce que vous devez retenir. Et si ce n'est pas le cas, il faut vous engager. Je vais faire des efforts à partir d'aujourd'hui, mettez-le dans votre agenda, à être un peu plus discret.
Merci pour ta discrétion, Jonathan. Vous savez que la discrétion, on peut se dire, oh, bon, c'est un thème un petit peu, s'en fiche un peu, mais on voit... Tu as cité plusieurs passages dans la Bible qui nous parlent de discrétion. Et en fait, la discrétion, c'est quelque chose qui est important aux yeux de Dieu. Et c'est important de sonder son cœur aujourd'hui, puis de se demander, ben, est-ce que j'ai un petit problème d'indiscrétion? Est-ce que j'ai tendance à vouloir me mêler des affaires des autres? Ou, comme tu l'as dit, est-ce que j'ai tendance à vouloir faire les choses pour qu'on me regarde? Donc, Jonathan, si je comprends bien, on ne doit pas s'occuper du regard des autres, c'est ça?
C'est ça, parce que si on fait les choses pour Dieu, ce n'est pas pour les autres. Si tu pries le matin dans ta chambre, ce n'est pas la peine de sonner de la trompette ou de prendre une photo sur Facebook. Il est 4 heures du matin, je commence à prier, puis après dire 3 heures plus tard, je sors de ma chambre de prière humblement et en toute discrétion.
Je crois que ça parle à quelqu'un aujourd'hui.
Les gens qui font ça.
Oui, il y en a qui font c'est ça.
Il n'y a qu'à regarder Facebook. Hein. Ça,
bon. Et je ne serai pas avec vous pour la longue veille, je jeûne et je prie toute la nuit. Ah ben oui, il y en a qui font ça.
Donc c'est ça, donc c'est pas la peine, parce que sinon après c'est de la vantardise, et même ça devient de l'orgueil, parce qu'on veut mettre en avant notre piété. Mais notre piété ou notre communion avec Dieu, c'est quelque chose entre nous et Dieu, c'est du confidentiel. C'est pas si tu as passé du temps dans la prière et que le Seigneur t'a parlé, qu'il a mis sur ton cœur des bonnes choses, ben c'est pour toi. Il y a des choses qui n'ont pas à répéter, mais de dire « Seigneur, je ne viens pas ici dans ta présence pour que tout le monde sache que je passe du temps avec toi. Je viens parce que j'aime être dans ta présence. » Et puis Jésus dit « Ferme la porte et dans le secret. » Donc il y a des choses qui doivent rester secret. L'indiscrétion, c'est faire sortir ce secret-là. Et donc du coup, on n'est plus dans le secret.
Il y a même une dimension supplémentaire. Hein. Dans plusieurs passages de la Bible, on voit que si on reste dans le secret avec notre Père Céleste, on a une récompense. Puisque quand il dit celui qui fait ça pour être vu, il a déjà sa récompense.
Vrai.
Ça veut dire qu'il y a une récompense qui est associée à la discrétion, que quand on passe du temps dans le secret avec Dieu sans que personne le sache et sans s'en vanter, eh ben, il y a une récompense qui vient avec.
Tout à fait.
Donc je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai fait. On va rester discret à ce sujet-là.
Et humble, parce qu'on voit que
c'est une question d'humilité.
Ça nous parle d'humilité
aussi.
En fait, tu parlais d'orgueil, mais finalement, la discrétion, c'est de l'humilité aussi.
Parce qu'après, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de le faire savoir pour dire, ben, moi, je prie plus que les autres, moi, je prie plus que la moyenne, moi, je lis plus ma Bible, moi, je fais plus cela, moi, j'ai jeûné plus, moi,
j'ai fait cela. Faut sonder ses motivations.
Je veux dire, parce que même, Jésus va dire, quand tu jeûnes, ben, tu te maquilles quelque part, c'est-à-dire tu te parfumes, tu fais en sorte qu'on ne voit pas que tu jeûnes. Donc, c'est pas... Alors, à plus forte raison, tu ne dis pas « J'en suis à J+, sur Facebook, encore un jour de plus. » Et puis, c'est comme si on est en train de battre un record ici.
Mais c'est un signe d'immaturité aussi. C'est souvent les enfants qui font les choses pour que leurs parents les voient et les complimentent. Puis, je pense que quand on est adulte et qu'on fait ça, c'est aussi parce qu'on veut être vu et reconnu.
C'est
un signe d'immaturité.
C'est vrai.
On n'est pas en train comme de juger les gens, parce qu'au fond, on ne peut pas connaître les motivations qui poussent certaines personnes à se montrer ou pas. Mais vraiment, ce qu'on veut faire ici, c'est vraiment d'encourager les gens à sonder leur cœur, en fait. De ne pas faire les choses pour les mauvaises raisons et de faire les choses par discrétion, parce que c'est justement ça que Dieu nous demande de faire avec tous les versets qu'on a vus aujourd'hui. Et vraiment, c'est une attitude de cœur d'abord, la discrétion. Que ce soit vis-à-vis de nous, que ce soit par rapport aux autres, c'est une attitude de cœur qui veut d'abord faire la volonté de Dieu. Et après, parce que je veux le faire, ben, je ne vais pas aller fouiller ou fouiner dans la vie des autres, dans les affaires des autres. Je ne vais pas essayer de me comparer à d'autres personnes pour montrer que, regarde, moi, je suis la fille qui prie le mieux sur ce plateau.
Est-ce que tu viens de le soutenir? Travaille ton humilité, mon ami.
Non, mais c'est ça, en fait. Ouais. C'est pas le but. Le but, vraiment, c'est d'honorer le Seigneur et... En marchant dans cette direction-là, ben c'est ça qui nous pousse à faire les choses, c'est ça qui nous pousse à être distrait, c'est ça qui pousse à publier peut-être une vidéo, c'est ça qui pousse à poser différentes actions, et c'est ça qui pousse à ne même pas aller trop chercher dans la vie des gens, mais à respecter la part que eux ils veulent bien nous donner dans leur vie, en fait.
C'est ça.
Et on le comprend très bien quand on parle d'argent, quand on donne, quand on fait l'aumône ou quand on est généreux. Il ne s'agit pas de publier, voilà, aujourd'hui, j'ai fait un chèque de temps avec tant de zéros pour telle association, pour enseigne-moi. Merci, si vous avez à cœur de donner 100 000 dollars, on les prend. Mais, et on ne le dira pas, hein, on ne dira pas que c'est vous, on restera discret à ce sujet-là. Mais il ne s'agit pas de dire, ben voilà, on le donne, mais on reste discret. Mais imaginez l'indiscrétion, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, que pendant le temps, il y a un temps d'offrande, vous êtes en train de rédiger le chèque pour l'offrande, puis il y a quelqu'un qui veut voir le montant que vous mettez sur le chèque. On dit non, mais ça se fait pas là.
Ben
c'est entre moi et Dieu, où j'ai pas besoin ou de montrer. Ou imaginez celui qui dit, je fais un chèque, puis il monte, j'ai vu là. C'est pas ce que je note ça. Bon, et à tel point que ça finit par être hypocrite. Et puis on est plus sincère dans ce que l'on fait. Et il faut savoir être discret. Alors on le comprend très bien quand il s'agit d'argent, parce que dans la francophonie, on est un petit peu, on aime la discrétion dès qu'il s'agit d'argent, mais ça doit être pour tous les domaines de notre vie, quoi.
C'est ça.
Si tu as fait du bien à ton voisin, pas obligé de dire, ah, je suis allé déménager mon voisin, vous rendez compte, j'ai passé 4 heures à faire ça aujourd'hui, ben, tu l'as fait, tant mieux. Tu l'as fait pour Dieu.
Moi, je veux partir sur la direction. Jonathan, t'as parlé tout à l'heure de se mêler de nos affaires. Puis aujourd'hui, on est dans un monde où j'étais l'autre jour au magasin supermarché. Puis t'attends pour payer et tu vois sur tous les revues, lui fait tel truc, lui est avec telle personne. Et puis tu veux savoir tous les trucs, mais il y a des revues qui sont consacrées à ça. Mais après ça, qu'est-ce qui arrive? C'est quand tu commences à être là-dedans, dans la vie du tous les jours, tu commences à vouloir savoir ce que tout le monde fait. Et ça mène au commérage, ça va mener à parler dans le dos des autres. Ça va t'apporter à plein d'endroits, en fait.
Ouais.
Et quand tu regardes, moi, je pense à Jésus. Souvent, je suis certain que les disciples auraient voulu qu'il parle plus. Il finissait un enseignement, mais il dit, mais pourquoi? Et puis on le voit après, Jésus enseignait quelque chose, et après ça, dans la maison, on voit les disciples, ils questionnaient plus. Jésus, devant les foules, il parlait pas, il était pas bavard. Il était, je suis sûr, qu'il y avait vraiment cet aspect-là de la discrétion qui était là. Et puis c'est comme un peu mystérieux, si on veut. Mais pourquoi il parlait pas plus? Mais il était comme ça, et on revient à ça. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure au commérage et à vouloir savoir tout ce que les gens... Mais ça va t'apporter même au péché, en fait. Ça va t'apporter à la calomnie, à parler dans le dos des autres. Ça va t'apporter à vouloir toujours savoir, comme j'ai dit, qu'est-ce que lui ou lui fait. Et puis, ça va juste apporter le désordre, en fait. La Bible dit que celui qui parle beaucoup
ne manque pas de péché.
Ouais. Et puis, c'est vraiment vrai. On est des gens, on parle beaucoup. Ouais. On veut savoir tous les trucs qui ne nous concernent pas et on perd notre temps avec tout ça. Et ça, même, ça va nous enlever le focus du but de ce qu'on doit faire, en fait. C'est tout du temps dans notre vie qui est pris à toutes sortes d'occupations. Sur Internet, tu vas sur des sites, tu veux savoir ce que toutes les célébrités font, ce que toutes les personnes font et tu veux... Mais pourquoi savoir tout ça? On doit apprendre à être un peu plus discret.
On est dans une société actuellement où la discrétion, en fait, ça n'existe plus.
C'est ça.
Les gens se filment chez eux, les gens se prennent en photo chez eux, les gens racontent en détail ce qu'ils ont fait dans leur journée, et les gens aiment ça. En fait, c'est une société un petit peu voyeuriste. C'est ça. On veut savoir ce que les autres font, et c'est ce qu'on aime, c'est ce qui marche, c'est ce qui fait des likes, des vues. C'est ça qui marche. On en parlait hier, Aurélie, et c'est ça le problème. Et je pense que vraiment, si quand on est justement en train d'aller espionner la vie des autres, qui veulent bien se montrer, c'est pas de l'espionnage discret, c'est vraiment volontaire, on sonde notre cœur puis on se demande, mais pourquoi je fais ça exactement?
Et il faut faire attention parce que du coup, ça alimente une mauvaise curiosité.
Oui.
On a ce dicton populaire qui dit que la curiosité est un mauvais défaut, et
c'est vrai.
Et des fois, on est trop curieux, on veut savoir des choses qui ne nous regardent pas. Tu veux savoir comment est faite la salle de bain de ton pasteur? Ça te regarde pas. tu veux savoir s'il dort en caleçon ou en pyjama? Qu'importe. Non, mais je dis, des différents. Et y en a qui auraient pu dire à Jésus, mais c'était comment le ciel? Est-ce qu'il y a beaucoup d'or? Est-ce qu'il y a ceci?
Absolument.
Jésus dit rien. Mm-hmm. Parce que c'est pas important. Et quand on alimente cette mauvaise curiosité, du coup, on veut être indiscret parce qu'on veut savoir des choses qui ne nous regardent pas. Et du coup, le peu d'informations qu'on a va venir construire une mauvaise information. Mm-hmm. Et c'est ce qu'on va appeler de la médisance.
Oui.
C'est-à-dire, on va parler mal parce qu'on ne sait pas. Et il n'y a rien de pire quand on ne sait pas et quand on devine. Mmh. On dit, ah, il y a quelqu'un qui fait ça. Donc, oh, il a une nouvelle voiture, donc il a dû prendre de l'argent quelque part. T'en sais rien.
Ouais.
Et donc, du coup, tu vas trop loin. Et je vous rappelle, les bases de l'amour, hein, c'est 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul nous le dit clairement, l'amour ne soupçonne pas le mal.
Ouais.
Et si on est bienveillant, on n'est pas médisant et on n'est pas indiscret et on va chercher le bien plutôt que de tout de suite essayer de trouver du mal quelque part. Alors apprenons à ne pas être curieux. On prend l'information qu'on nous donne. Aurélie me donne de l'information sur ce qu'elle a fait ce week-end, je suis content. Mais je n'essaye pas de deviner, tiens, qu'est-ce qu'elle a bien pu faire? Elle a un regard un peu spécial, il a dû se passer quelque chose. Et puis du coup, on arrive avec toutes sortes d'affaires c'est complètement ça. Fausses. Et ça, c'est mauvais.
Je voudrais couronner ce magnifique propos en disant une citation de la voisine de ma grand-mère qui était une commère, mais le prix Nobel de commérage, et qui disait « Quand on ne sait pas, on invente, ça produit toujours son petit effet.
Oh »
Avec l'accent des Richons, quand on ne sait pas où l'invente, ça produit toujours son petit effet.
Ah, c'est extraordinaire.
Ça, c'est pas la Bible.
C'est pas la Bible, c'est la commère de la rue.
Ah. C'est terrible.
Ouais, vraiment.
Mais je pense que parce que là, elle, c'était évident, mais tu sais, c'était visible, c'était pleinement assumé, c'était une commère assumée. Mais je pense que beaucoup sont des commères non assumées et intérieures.
Ouais.
Donc ça sort peut-être pas de la bouche, mais ça se passe dans le cœur, ça se passe dans les pensées.
Ouais.
Et c'est là où c'est important de vraiment être honnête vis-à-vis de nous-mêmes et sonder réellement notre cœur. Et peut-être parfois, il va falloir éviter d'aller un peu sur Facebook, d'aller un peu sur YouTube, d'aller un peu sur Instagram, etc., parce que c'est simplement une occasion de chute pour nous, et on pense à des choses et on fait de la médisance intérieure, mais ça reste de la médisance.
Pour rester bienveillant.
Pour rester bienveillant, tout à fait. Et on va terminer ce temps de discussion avec notre verset du jour pour valider tout ça une bonne fois pour toutes, 1 Thessaloniciens 4:11. Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore, et oui, on doit encore progresser, à vous efforcer de vivre en paix et à vous occuper de vos propres affaires. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Je
pense pas certain qu'il le dit comme ça. Oh, de vos propres affaires.
Mets-toi tes affaires.
Mets-toi tes affaires.
C'est clair. Moi, je le faisais en toute douceur.
Mais ça parle plus de l'autre façon.
Ah, mais quelqu'un a besoin de l'entendre aujourd'hui. Mêle-toi de tes affaires.
Amen. Recevez, si c'est vous. En tout cas, sur ce plateau, on sonde tous notre cœur également. Et puis, on a tous à progresser, comme ce verset le dit. Et Anne, on va maintenant passer à la rubrique famille. On va voir justement quel type de discrétion il faut avoir quand on est parent d'enfants adultes. On passe à la rubrique famille. Anne, c'est pas facile. On est parents pendant des années, on doit prendre soin de nos enfants, on doit investir en eux, ils ont besoin de nous, on doit leur dire quel est le pied gauche et le pied droit de leurs chaussures, comment tenir leur fourchette, et en grandissant, on doit leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire, ne pas faire, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et puis un jour, finalement, on se retrouve avec des enfants qui nous disent « Maman, mêle-toi de tes affaires, papa, laisse-moi faire ma vie ». Comment on gère ça ?
Oui, effectivement, il faut le gérer. Et il y a beaucoup de parents qui manquent ce passage-là, ce renversement d'attitude du parent d'enfant au parent d'adulte. Et en manquant ce passage obligé, ben, ils font des gaffes et ça amène de la division dans les familles. Donc il y a vraiment un principe de base qu'il faut absolument comprendre. Mais ça, dès qu'ils sont petits, c'est que notre enfant ne nous appartient pas, déjà.
Tu le dis souvent dans cette rubrique et c'est important
de
comprendre.
Je le dis souvent, je l'ai aussi dit souvent dans Parole de femme, nos enfants ne nous appartiennent pas. Et c'est ma belle-mère, la maman de Jonathan, qui me l'avait dit quand mes enfants étaient bébés. Elle dit « Souviens-toi toujours, Anne, que les enfants appartiennent à Dieu et ils ne t'appartiennent pas. » Et c'est une grande sagesse, oui, parce que dès l'enfance, Dieu nous les confie pour qu'on les amène à l'âge adulte. Mm-hmm. Et il nous donne ce privilège, cette confiance qu'il nous fait de les amener à l'âge adulte. Mais ils ne nous appartiennent pas, c'est pas notre propriété. Et quand ils deviennent adultes, normalement, notre travail d'éducateur, d'éducatrice est terminé. Et on doit être dans une période plutôt où on ramasse les fruits de notre éducation. Et souvent, il y a des gens qui ne vivent pas cette période-là de manière harmonieuse et qui ne récoltent aucun fruit. Et c'est plutôt de la dispute, les enfants qui ne viennent plus les voir parce qu'il y a eu des maladresses de commises. Donc il faut vraiment faire cette transition de passer d'éducateur à accompagnateur. Et parfois, ça vient dès la fin de l'adolescence. Il faut comprendre qu'on lâche du lest et puis on va rentrer progressivement dans ce rôle d'accompagnateur. Il y a un défi qui est quand même important, c'est de conserver le lien avec nos enfants.
Oui.
Parce que, comme je vous le disais, il y a beaucoup de familles qui se retrouvent divisées ou en tout cas qui se voient, mais à contre-cœur, parce que justement, le lien n'a pas été conservé. Et si on veut continuer à déverser de bonnes choses chez nos enfants et nos petits-enfants, eh bien, il va falloir le faire subtilement et avec sagesse, intelligence et le conseil de Dieu. Il y a beaucoup de familles, je vous l'ai dit, qui se retrouvent éclatées, pour qui c'est une corvée d'aller voir les parents parce qu'on va encore se prendre des réflexions sur ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, le travail qu'on a, l'endroit où on habite, la voiture qu'on a choisie, la manière dont on éduque nos enfants, et ça n'en finit plus. Et on arrive chez les parents et c'est toujours le tribunal, les parents qui se mêlent de nos affaires, de nos investissements financiers, de je ne sais pas quoi. Et les enfants ne le supportant plus, ils viennent à contre-cœur ou ne viennent plus du tout. Alors oui, c'est un vrai enjeu parce que Dieu se plaît dans l'unité des familles.
Oui.
L'unité est une unité, et l'unité des familles est voulue de Dieu. Dieu veut que ses enfants soient unis et en particulier au sein de la famille. Et il va en découler un fruit abondant. Si on arrive à garder nos familles unies, on va vraiment plaire à Dieu et il va y avoir des fruits sur nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Et l'unité des familles est une grande bénédiction. Alors on va y travailler. Parce que c'est pas facile. Nous, on est parents d'enfants adultes, on a une transition à faire, puis des fois, elle a fait mal. Mais il faut la faire absolument. On n'est plus là pour façonner le jeune. Notre travail est fait normalement. Et il faut... en fait, le principe, c'est je ne suis plus là pour te dire ce que tu as à faire, mais je serai toujours là pour toi si tu as besoin de moi.
Et donc ça, c'est la devise des parents. On reste disponible, mais on n'est plus en train de dicter chaque pas, en fait.
C'est ça. Il faut avoir un rapport qui change. On n'est plus l'éducateur. On va être une ressource paisible, subtile. Quelqu'un, moi je sais que les parents de Jonathan priaient par exemple tous les vendredis midi, ils jeûnaient, ils priaient et on savait qu'ils priaient pour nous, pour nos enfants, pour notre ministère.
Okay.
Mais ils se mêlaient pas de nos affaires. Donc ça c'est un exemple de parent qui agit bien. C'est-à-dire que nous, ça nous faisait du bien de savoir qu'ils priaient pour nous et on savait que si on avait besoin, ils étaient là. Mais ils ne s'impliquaient pas dans nos affaires. Et ça c'est vraiment ce qu'il faut faire. Je suis plus là pour te dire ce que tu as à faire, mais je suis là pour toi si tu as besoin de moi.
Ça, juste un point, je pense que c'est important aussi parce qu'il y a des parents que leurs enfants sont peut-être pas avec le Seigneur présentement, ils sont adultes. Puis le fait de rester présent, je pense que c'est important de le souligner parce qu'il y a des parents qui peuvent être frustrés à cause des décisions qui ont été faites.
Bien sûr, mais oui.
Tu sais, fous-moi la paix. T'es rendu un adulte, j'ai fait ce que j'avais à faire, là, dégage.
Maintenant, débrouille-toi.
Mais c'est pas l'attitude à avoir et je pense que c'est important pour certaines personnes.
Moi, je pense même, excuse-moi, à d'autres, parce que moi, je l'ai vu vraiment grandissant, mais c'est plus dans la culture africaine où les parents n'appliquent pas souvent cette phrase-là. Mais ils sont là comme pour te dire ce que tu dois faire. Même quand tu es plus âgé, même quand tu as une famille et des enfants. Et c'est vraiment important de souligner ça, en fait.
Ben oui, parce que si on reste dans ce modèle du parent qui, jusqu'à quasiment ses 100 ans, va nous dicter ce qu'on a à faire, c'est infantilisant, puis c'est pas ce que Dieu veut. Dès la jeunesse, Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère et restera avec sa femme, s'attachera à sa femme. C'est un principe. Il doit y avoir un détachement des parents. Et puis, c'est sûr que ça, c'est vrai pour les gars, mais c'est vrai pour les filles aussi. Une fois qu'on est marié, on n'est plus sous la juridiction de nos parents.
Et pour être sûr d'être bien compris ici, puis on va laisser Anne-Phoenix un peu plus aussi. C'est qu'il ne s'agit pas de couper que les parents n'aient plus de part. Parce que même les enfants adultes continuent à honorer, respecter les anciens, respecter les parents, aller chercher conseil, aller chercher de l'aide. Ça arrivait que notre fille venait me demander conseil par rapport au ministère et autres. Mais il y a une différence entre « je suis là » et l'enfant adulte qui respecte et honore le conseil de son père, de sa mère, et ça, c'est biblique et c'est normal. Mais il y a une différence entre la personne qui respecte et puis les parents qui s'investissent et puis ceux qui s'imposent. Il y a une petite nuance à faire. Il ne s'agit pas de ne plus être là en disant maintenant tu te débrouilles, tu es grand. Je suis là, mais je ne m'impose pas.
Et voilà. Et donc, il y a des attitudes gagnantes à avoir pour garder de bons rapports. Alors, la première, et c'est vraiment ce qu'on vient de dire exactement, s'abstenir de toute intervention dans ses choix. On doit vraiment se forcer à se taire et à passer à l'arrière-plan. Si notre jeune adulte vient nous solliciter, qu'est-ce que t'en penses? On va donner notre avis, mais il faut pas dire c'est mal ce que t'as fait, ton choix c'est n'importe quoi, ou fais ci, fais ça, fais pas ci, ou fais ça pour faire plaisir à ton père. Ça ne marche plus. Donc il faut vraiment, si on veut garder de bons rapports avec nos parents, avec nos enfants. S'abstenir de toute intervention dans leur choix. Alors, notre intervention, j'allais dire, elle va être plus passive. On va prier pour eux. On va peut-être, quand ils nous sollicitent, les conseiller, mais on va vraiment prier dans le secret. On ne va pas faire des grosses allusions. C'est des fois, on le fait, mais de manière plus subtile.
Oui, mais finalement, c'est gros.
Mais voilà, finalement, ce n'est pas subtil du tout. Voilà, on va faire des têtes, des yeux à l'envers, Et ça parle aussi bien qu'une phrase. Donc il faut vraiment veiller, et puis dans notre cœur aussi veiller, à ne pas s'impliquer dans leurs choix, juste prier et les remettre à Dieu pour qu'ils fassent les bons choix. Alors il faut aussi qu'il n'y ait pas de compétition avec notre enfant dans ses accomplissements. Des fois, on le voit dans certaines familles, il y a de la compétition. On a peur que notre enfant fasse mieux que nous. Il y a des familles, moi je me souvenais d'une famille, le fils était ambulancier et le papa était médecin, et le père crânait tout le temps parce que son fils n'était que ambulancier. Mais t'es le père, t'es pas le compétiteur. Donc sois béni Dieu parce que ton fils a réussi à être ambulancier. C'est une profession qui est honorable, mais c'était une très mauvaise attitude de crâner tout le temps parce que lui n'avait pu faire qu'ambulancier. Ben là, si vous voulez rater vos rapports avec vos enfants, faites ça, hein. Ensuite, troisièmement, pas de compétition avec l'autre moitié si notre enfant est en couple. Que notre enfant soit marié ou en couple, parce que maintenant il y a des enfants qui ne sont pas chrétiens et qui se mettent en concubinage, notre enfant n'est plus seul, il a une autre moitié. Et il y a aussi des parents qui font des gaffes, non pas par rapport à leur jeune, mais par rapport au conjoint de leur jeune adulte. Et ça, c'est très mauvais pour les familles, et ça va amener, et on le sait, beaucoup, beaucoup, beaucoup de divisions dans les familles.
Il ne faut pas mettre son enfant dans une position où il devra choisir entre ses parents et son conjoint, sa conjointe.
Jamais. Il est attaché à sa femme ou votre fille est attachée à son mari, et il ne faut jamais le mettre en position de devoir choisir entre vous et son conjoint. Ouais. Parce que là, c'est la meilleure recette pour qu'il choisisse son conjoint puis qu'il vous abandonne. Oui. Voilà. Donc, cette fille-là n'a pas volé votre fille, c'est ce gars n'a pas volé votre fille. Mais c'est celui qui est censé faire son bonheur. Donc moi, en tant qu'adulte chrétien, je vais prier pour que ça se passe pour le mieux et je vais travailler sur mon attitude pour que ça se passe le mieux possible. Ensuite, attention à la médisance. On en a parlé un peu avec la pensée du jour, mais dans les familles, il y a des ragots et il y a des médisances. Alors on va confier quelque chose à son père ou à sa mère, puis après les tantes, les oncles, les cousins le savent, et ça vous revient en boomerang, et vous apprenez qu'il a été dit que, et que votre tante avec votre autre tante ont fait des ragots sur votre situation familiale ou votre choix. C'est terrible, c'est terrible. Alors il faut fermer sa trappe, et on arrête les médisances dans la famille. Si moi, ma fille vient me dire quelque chose, je ne vais pas aller le badrasser à toutes ses sœurs. Ses sœurs n'ont pas à savoir ce qu'une de mes filles m'a dit.
Oui.
Donc, il faut savoir garder la discrétion aussi dans les confidences que peuvent nous faire nos enfants. Ce n'est pas une affaire de famille, c'est une affaire de un à un. Aussi, ne pas porter de jugement sur les choix. Donc, on a dit tout à l'heure ne pas s'impliquer dans leurs choix, mais maintenant, ne pas non plus porter de jugement sur leurs choix. On a forcément une opinion. Puis des fois, nos enfants prennent des décisions qu'on désapprouve. Mais j'allais dire qu'on désapprouve ou qu'on approuve, c'est même pas ça le problème. Si vous voulez garder des bons rapports avec vos enfants, eh ben vous ne portez pas de jugement ouvertement sur leurs choix. Que vous ayez votre opinion, tout le monde en a une. Moi, c'est normal, on est humain. On va, avec notre sagesse, avec notre vécu, on va se dire « Ah, ça, c'est pas forcément un bon choix ». Mais il ne faut pas le verbaliser tant qu'on ne vient pas nous le demander.
C'est ça. C'est quand on vient nous demander conseil, là, on donne notre opinion.
Et puis même en le donnant, je veux dire, il faut y aller avec mesure. Si votre fille vient vous dire « Tiens, avec machin, on va se marier » et vous n'êtes pas du tout d'accord, ce n'est pas parce qu'elle vous ouvre une porte que vous avez non plus les grandes vannes ouvertes.
Donc, on est sage dans la
réponse. On est sage dans ce qu'on va dire.
On est sage.
Et bien souvent, peut-être plus de 50% des cas, c'est sur des bricoles.
C'est vrai.
Sur des affaires.
Oui.
Ah, ben, ils ont décidé d'habiter dans ce village-là, mais pourquoi ils n'ont pas pris celui-là? Moi, j'aurais choisi là. Ah, ils ont choisi une voiture allemande. Pourquoi ils n'ont pas pris une voiture française? Et puis,
c'est vrai.
Laisse-les choisir.
Mais il y a des choix. Souvent, ça va être sur les petits-enfants, la façon d'éduquer les petits-enfants. Et il y a beaucoup de familles où les parents vont juger la manière dont la belle-fille ou le fils élève les enfants. Alors, on a élevé nos enfants d'une certaine manière, qui avait du bon, qui avait du moins bon. Nos enfants sont adultes, ils sont responsables d'enfants, ils vont faire des bonnes choses, puis ils vont faire des gaffes. Mais c'est plus notre rôle de venir là en censeur, en juge, en disant « tu fais n'importe quoi, t'élèves tes enfants n'importe comment, tu devrais faire ci, tu devrais leur donner ça à manger, tu leur donnes trop de sucre ou tu leur donnes trop de poireaux à manger. » Moi, je me souviens ma tante donner au goûter à ses filles un bouquet de persil. Ça a toujours été une énigme pour moi, mais je me souviens que dans la famille, tout le monde rigolait avec ça.
Ben oui.
Mes tantes ensemble, les cousins...
Ça me fait rire.
Tout le monde rigolait parce que ma tante donnait du persil à ses filles. Ben, à la rigueur, avec le recul, je me dis on avait tort, parce que c'était son droit, c'était elle la responsable de ses enfants. Puis si elle jugeait que le persil, c'était bon, so be it. Allez, donne du persil à tes filles. Donc souvent, je vois des gros problèmes dans les familles parce que la grand-mère se mêle et va dire que la belle-fille nourrit mal les enfants, ou qu'ils regardent trop la télé, ou qu'ils sont trop à telle ou telle activité, ou qu'ils font pas assez ci, ou qu'ils font pas assez ça. Taisez-vous.
Faut garder sa place de grand-parent. On n'est plus parents, on est grands-parents.
Parce qu'en faisant ça, vous avez peut-être raison. Hein. Je dis pas que les parents ont tort. On a peut-être 100% raison. Mais le fait de le verbaliser ou d'essayer de pousser pour que ça change, on va fiche en l'air et on va se retrouver avec des rapports vraiment ruinés avec nos enfants. La belle-fille va être contre la belle-mère, ça va être vraiment la ruine. Donc il faut éviter ce genre d'attitude. On ne porte pas de jugement, on ne fait pas les yeux à l'envers, on ne fait pas de soupir, parce que la belle-fille éduque mal selon nos critères, nos petits-enfants. Voilà. Aussi, il faut savoir rester discret, on l'a dit, ne pas faire de mine, et aussi discret dans la présence. Il y a des parents qui sont tout le temps chez leurs enfants, et il y a Proverbe 25-17 qui dit « Mets rarement le pied chez ton prochain, il risquerait d'être saturé et de te détester. » Et c'est valable dans les familles.
C'est clair, hein. C'est vrai.
C'est la version Nouvelle Bible Seconde. Voilà, on a tout dit. Je veux dire, si vous êtes trop souvent chez vos enfants, attendez d'être invité et assurez-vous de ne pas être de trop. Parce que sinon, vos enfants vont se lasser. Ensuite, ne pas les culpabiliser de notre solitude. Quand le nid est vide, il y a des parents, souvent c'est les mamans, qui se languissent parce que les enfants sont partis. Et c'est vraiment malvenu de les culpabiliser de notre solitude. C'est juste la nature des choses. C'est la vie. Vos enfants sont adultes, ils sont partis. C'est juste comme ça, puis il faut en prendre son parti. Et si on est seul, qu'on se sent seul et qu'on déprime, ben, c'est pas à nos enfants à culpabiliser à cause de ça. Ce qu'ils font, c'est normal. Ils se sont éloignés, c'est juste normal. Et il faut les laisser respirer. Ensuite, il faut rester disponible s'ils ont besoin de nous. On l'a dit tout à l'heure dans les commentaires de la pensée du jour. Il faut vraiment être disponible et pas non plus... Il y a des parents, c'est le contraire. Maintenant, fais ta vie. Moi, je fais la mienne. Je veux plus entendre parler de toi. Tu m'agaces. Moi, je me souviens d'une voisine à ma mère qui avait dit « Oh, j'ai élevé mes enfants. Maintenant, c'est pas à moi d'élever mes petits-enfants. Débrouille-toi avec les tiens. » Et je me souviens, ça m'avait choquée d'entendre ça. Je m'étais dit « Mais c'est une grâce de pouvoir garder ses petits-enfants. » Ben, en tout cas, de pouvoir déverser dans leur vie.
Ça, c'est l'autre extrême.
C'est l'autre extrême, c'est ça. Se dire, bon, moi, je t'ai élevé, maintenant, élève tes gamins, je veux rien entendre parler.
Le principe, c'est de conserver un lien, un bon lien, une belle relation, en fait.
C'est ça, tu restes disponible s'il a besoin de toi. Et puis, cultiver l'action de grâce au sujet de nos enfants. Alors, c'est sûr, si on est dans une famille où les enfants ont bien tourné, que tout le monde sert le Seigneur, que c'est la famille Sunshine, tu sais, on prend le petit déjeuner au soleil, tout va bien, tout le monde est content, tout le monde est heureux, tout le monde est beau et en bonne santé. Bon, bah, tant mieux, merci Seigneur.
Mais on parle de notre famille, là.
Oui, je parle de notre famille,
absolument.
Mais cultiver l'action de grâce même dans des situations qui sont plus problématiques. Et ça, ça va beaucoup nous consoler, ça va aussi nous donner de l'espoir et ça va nous amener aussi à confesser des choses qui vont être bonnes. Parce que si nos enfants ont pris des mauvais plis, pris des mauvais chemins, pris de mauvaises décisions, ben merci Seigneur quand même. Merci pour leur vie, merci parce que je suis leur parent, merci parce que tu me donnes l'occasion de prier pour eux. Il y a toujours un sujet d'action de grâce. Dans une dernière rubrique sur flashback sur Corrie ten Boom, j'avais dit que sa sœur remerciait pour les puces, puis qu'on s'était rendu compte qu'après les puces avaient eu un effet positif sur leur moment de prière. Et il y a des choses qui, a priori, ne sont pas des sujets d'action de grâce, mais il faut apprendre à rendre grâce même pour les sujets qui nous irritent. Alors, je ne vais pas non plus rendre gloire à Dieu parce que ma fille a fait n'importe quoi, mais on a toujours, on trouve toujours des sujets d'action de grâce et il faut s'appliquer à les trouver. Ensuite, il faut ne jamais cesser de croire en eux. Et ça, c'est la conséquence de l'action de grâce que j'ai cultivée à propos de mes enfants. C'est-à-dire que Dieu n'a pas dit son dernier mot jusqu'au dernier souffle. Mmh. Et quand nos enfants ont pris de mauvais plis, ont fait de mauvais choix, pris de mauvaises routes, c'est quand même, il y a quand même un formidable potentiel en eux. Et le plus beau des potentiels, c'est que l'action de Dieu va se faire dans leur vie, si on prie et qu'on est fidèle dans la prière. Mmh. Donc nos enfants ont un potentiel, si on les a bien élevés, il y a toujours des bons restes. Si on a fait des erreurs, Dieu est miséricordieux pour les compenser. Et il ne faut jamais cesser de croire en nos enfants, même quand ils ont des vies qui, selon nos critères, sont désastreuses. Mmh. Alors, en résumé, ben, il faut rester en retrait, cultiver la discrétion, qu'il n'y ait pas de jugement sur leurs choix, être un soutien quoi qu'il arrive, et de dire, ben, je ne suis pas moi, en tant que parent, responsable de ces choix, mais je suis responsable, par contre, de les porter dans la prière jusqu'au bout. Même s'ils ont 40 ans ou 50 ans, ben mes enfants, je les porte dans la prière jusqu'au bout. Et ne pas s'incruster, ne pas s'imposer, ne pas s'incruster, et donner des conseils quand ils sont sollicités. Mm-hmm. Et ça, c'est les recettes gagnantes pour garder de bons rapports avec nos enfants, et puis pour garder des familles unies.
Mais oui, c'est sûr, parce que c'est ça, les parents ont tout un background, un arrière-plan, des expériences faites. Et les parents, nos parents sont un puits de sagesse, normalement. Ils ont une expérience qui fait que les conseils donnés peuvent vraiment être bons. Donc moi, je veux aussi encourager les enfants adultes à aller voir leurs parents pour leur demander des conseils, à oser y aller. C'est important de permettre à leurs parents de s'investir dans leur vie, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on veut se détacher, on veut montrer qu'on est capable, on veut montrer qu'on peut faire nos propres choix. Et puis finalement, on peut se tromper parce qu'on a été un petit peu orgueilleux de ne pas avoir osé demander à papa et maman. Donc,
ils faut trouver l'équilibre. Ben, oui, les parents. Absolument. Là, je parlais du côté des parents.
Oui, c'est ça, mais maintenant, c'est une petite parenthèse. Mmh.
Mais du côté des enfants, il y a aussi une attitude d'honneur à avoir vis-à-vis des parents. Mmh. Et puis j'allais dire, si les parents sont vraiment trop interventionnistes et puis font toutes les gaffes que j'ai dit de ne pas faire, notre responsabilité en tant qu'enfant adulte, c'est aussi de rester sage. Et on continue d'honorer nos parents.
Oui.
C'est pas, on n'a pas à leur foncer dedans.
C'est pas une excuse. C'est pour marcher dans le déshonneur.
Pour être dans le déshonneur. Mmh. S'il faut prendre ses distances parce que la relation est trop toxique, ben peut-être il va falloir en passer par là. Mmh. Ça peut arriver dans certaines familles. Mais maintenant, on n'a pas à manquer d'honneur en, je sais pas, les insultant ou les remettant à leur place. Ou hein, t'as des enfants, moi j'en ai entendu, des enfants adultes qui remettent à leur place les parents. Mm-hmm. Et ça, c'est manquer d'honneur.
Absolument.
Donc en tant qu'enfant, maintenant côté enfant, on doit toujours rester, avoir une attitude honorable envers nos parents.
Oui. Mm-hmm.
Voilà.
En quelques secondes, pour ceux qui nous écoutent et qui disent ben, « moi, je n'ai pas d'enfant adulte, la rubrique, ce n'est pas pour moi », c'est pour vous aussi, parce que ce sont des principes de famille. Et c'est vrai dans toutes les familles, y compris dans la famille de Dieu.
Oui.
Vous pouvez prendre tous ces principes-là et les mettre dans l'Église, parce que c'est une famille, et avoir ce même genre d'attitude entre frères et sœurs et entre leaders et responsables dans l'Église par rapport à la famille de l'Église.
Même si on n'est pas, parent d'enfants adultes, on peut être une tante ou un oncle. Mm-hmm. Et puis ce que j'ai dit par rapport au commérage dans la famille, c'est valable aussi pour les oncles, les tantes et les grands-parents.
Ça, c'est bien vrai, effectivement.
Ah, tu parles par extérieur ?
Non, je n'ai pas à me plaindre. Moi, j'ai fui la Suisse.
Affaire réglée.
Habituellement, les gens vont se réfugier.
Moi, j'ai fui. Non, je plaisante. Dans ma famille, non, la discrétion marche très, très bien dans ma famille. Peut-être trop bien, même. Mais merci beaucoup, Anne, pour tous ces excellents conseils, parce qu'on n'en parle pas souvent. On s'attarde souvent plus sur les enfants en bas âge ou l'adolescence. Et puis on a l'impression qu'une fois que l'adolescence est passée, bah c'est bon, tout est beau, tout est relax. Mmh. Mais en fait, on voit qu'il y a encore du chemin à faire. Mmh. Cette relation en fait, entre parents et enfants se bâtit vraiment toute la vie, et y compris jusqu'à l'âge adulte.
J'ai oublié juste un petit point, en quelques secondes, j'ai oublié de dire aussi que quand on est des grands-parents de petits-enfants, il ne faut pas tomber dans la jalousie des autres grands-parents, parce qu'il y a deux couples normalement de grands-parents. Fois même avec les familles recomposées, il y a plus de grands-parents, il y a 8 ou 9 grands-parents.
Oui, tout à fait.
Donc il faut surtout
éviter de tomber dans les jalousies et dans les rivalités de grands-parents.
Ça, c'est vrai. Ça peut causer beaucoup de tort. Voilà. Et puis, les petits-enfants peuvent en jouer, en plus.
Ah bah oui.
Ils le remarquent très, très
et
vite.
Et c'est la guerre au moment des fêtes de fin d'année.
Oh oui, ça, c'est vrai. Donc, merci à vous tous pour cette excellente discrétion sur ce plateau. Et à la maison, j'espère que vous avez été édifiés, été bénis par le contenu de cette émission. Alors, peut-être que le titre ne vous inspirait pas beaucoup, mais je pense que vous avez compris ce qui se cachait derrière ce titre. C'est important d'être des personnes discrètes dans tous les domaines de votre vie. Ne soyez pas toujours en train de vous mêler des affaires des autres, de vouloir conseiller les autres, de vouloir donner votre opinion sur tout et n'importe quoi. Vous pouvez penser des choses, mais gardez-les en dedans de vous jusqu'à ce qu'on vienne vous demander conseil. C'est valable pour des parents avec des enfants adultes, mais c'est valable dans tous les domaines de notre vie. Et nous allons nous retrouver demain. Nous aurons notre quiz, notre premier quiz de l'année, si je ne me trompe pas, ou peut-être deuxième déjà. Comment me réjouir des succès des autres sera notre thème du jour. Et comme je l'ai dit, notre quiz, donc on a des équipes qui sont absolument prêtes. Ouais,
les rouges sont là.
Les rouges sont là, ah ouais. Les bleus sont là, Frank.
On est discret, non?
On parle pas beaucoup.
On parle pas beaucoup. Ah oui, mais c'est sûr, les bleus sont très discrets en général. On verra si demain la discrétion sera de mise pour l'équipe bleue ou pas. Habituellement, c'est pas le cas. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.